Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 888 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple, sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le domaine Alain Chabanon, le vignoble de Corse, la maison de champagne de Venoges, et puis les voyages de Thomas Jefferson, le troisième président américain. À mes côtés, Florence Corbalan, Philippe Forbach et David Cobold. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Alain.
Commence par le Vino Quiz, mon cher David Cobold. Pourquoi le Vino Quiz de Invino, Sud Radio.
Excellente idée. Alors, vous allez gagner, le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, juste pour... Ça, c'est la carotte. Maintenant, le bâton.
Teasing, c'est le teasing, l'envie.
Le bâton. La question de la semaine dernière fut... comment se nomme l'appellation dont a parlé Philippe Forbrack samedi dernier? Eh bien, option A, éolienne. Possible. Option B, moulin à poivre. Option C, moulin à vent.
Et la réponse est...
Moulin à vent.
Moulin à vent, bravo. Cette semaine, David. Okay.
Nouvelle question. Comment se nomme la cuvée prestige de la maison de champagne de Venoges? Réponse A, Louis XV. Option B, Louis XX, deux fois X et un double X. Réponse C, Emmanuel Macron.
Voilà, très bien. Voilà. Il y a un des trois qui est la bonne réponse.
Alors,
et donc, David, on fait quoi alors?
Bon, là, on va tout de suite sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et puis on coche A, B ou C. Et puis, si vous avez la bonne réponse.
Et puis, on croise les doigts pour essayer de gagner les tirs au sort. Merci, David Cobold. Invino Sud Radio retrouve Florence Corbalan, donc sommelière et chanteuse lyrique, avec qui nous accueillons Alain Chabanon. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Alors, votre domaine, il est situé où exactement? Vous êtes dans le sud, vous, hein?
Dans le sud, à côté de Montpellier, appellation Terrasse du Larzac, enfin, zone d'appellation.
Et vous l'avez créé ou vous en avez hérité?
Oui, j'avais des parents qui étaient professeurs de français, d'espagnol, donc j'ai décidé de créer le domaine.
Florence.
Vous achetez vos premières vignes du côté de Montpérou, donc, au début des années 90. Et là, vous avez une idée précise du genre de vin que vous vouliez faire. Quelle est votre philosophie? On vous dit anticonformiste, exigeant et réservé. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est globalement vrai. En fait, moi, j'ai fait des études à Bordeaux. Et donc, là-bas, dans les années 80, on m'a appris ce que j'appelle la vraie façon de vinifier, hein, c'est-à-dire une façon qui était... débarrassé des modes actuels, et donc j'ai appris des méthodes où on élevait les grands vins 36 mois avant de les mettre en bouteille, et c'est ce que j'ai voulu faire dès le début. Quoi. C'est...
Vous choisissez des vieilles vignes près de Montpérou, alors pourquoi?
Ben en fait, j'ai passé une annonce pour acheter un vignoble, et à l'époque personne ne voulait acheter de vignes en Languedoc, et des gens qui étaient en coopérative...
Et sur l'annonce c'était quoi? C'est « je cherche un vignoble
voilà,
à acheter ».
Voilà, c'est ça, jeune, ouais. Je cherche, à l'époque c'était ça quoi. Et des gens m'ont écrit, ils avaient des très vieilles vignes tordues et pas chères. Et ils avaient honte de me les présenter, parce qu'elles étaient en coopérative. Mmh. Donc ils se sont dit, le gars ne va pas pouvoir elles sont trop vieilles. Et moi, j'étais ravi de voir
bien
des vieilles vignes. Comme ça que j'ai des Syrahs qui ont été plantés années 70, par exemple. Donc,
votre premier millésime date de 1992. Aujourd'hui, le domaine porte votre nom, Chabanon. Ouais. Vous avez combien d'hectares?
Entre 17 et 18.
Et ils sont répartis sur plusieurs communes, n'est-ce pas?
5 communes, en fait.
Et pourquoi
Les 5 communes permettent d'avoir des terroirs. Alors, globalement, tout est argilo-calcaire, mais on a des micro-terroirs différents selon qu'on est sur Montpérou ou sur la zone Jonquière.
Il faut combien de personnes pour travailler sur 17 hectares? 17 hectares, c'est beaucoup, 17, hein?
C'est à la fois beaucoup et on a un mode de travail qui permet, notamment sur la taille, d'aller relativement vite.
D'accord.
Donc, on a 3 personnes à l'année et on prend des entreprises pour...
Et vous produisez combien de bouteilles au total?
Alors quand tout va bien, 60 000 bouteilles.
Ouais.
Ça fait 4 ans que, comme beaucoup de gens, ça va moins bien, pour des raisons qu'on connaît. Quoi.
Météo.
Météo, oui. Voilà. Le gel, le mildiu, cette année, les
c'est
brûlures.
C'est pas simple.
Voilà, très compliqué.
Est-ce que les orientations et les altitudes varient beaucoup entre les parcelles chez vous?
Alors, chez moi, pas tellement. On va de 100 à 150 mètres. Mmh. Par contre, les orientations peuvent jouer beaucoup.
Oui.
On a des vignes exposées à l'est, par exemple, certaines, sur des merlots de haute colline. Et donc, pour des merlots exposés à l'est, c'est super dans le sud.
Parce que vous avez quel genre de cépage?
Alors, je suis un peu atypique en blanc. J'ai Chenin Vermentino.
Ah oui.
C'est particulièrement atypique.
Qui est, voilà, je n'ai pas de Carignan. Et sinon, j'ai beaucoup de Syrah, de Mourvèdre et de Grenache.
Alors ça, c'est des choses que vous avez récupérées quand vous avez acheté ou il y a une partie que vous avez plantée, vous?
Alors j'ai planté à peu près un tiers sur les 30 ans, un tiers du vignoble. Mais par exemple, les Merlots, je les ai eus par des concours de circonstances. Et comme je suis languedocien, je planterai jamais de Merlot, mais je suis très fier des Merlots que j'ai. Voilà.
Aujourd'hui, vous avez fait le choix de la culture biologique, mais aussi de la biodynamie. Alors pourquoi ce choix ?
La culture bio, c'est tellement une évidence. Tout petit, j'étais déjà bio. Donc moi, je me suis engagé en 2002. Et en 2002, c'était un handicap d'être en bio par rapport à la partie commerciale. Mais dans ma tête, j'ai toujours été bio, quoi. Et la biodynamie, parce qu'on s'ennuyait en bio. Et donc, nous, on est certifiés depuis la récolte 2011. Donc, ça fait déjà 8 ans qu'on est certifiés en biodynamie.
Et vous avez combien de cuvées ?
Alors, on a 5 cuvées de rouge, 2 cuvées de blanc.
Très bien. Avec des appellations particulières ?
Alors, appellation, à partir de cette année, on va enfin déclarer du terrasse du Larzac. Parce que tous nos terroirs sont terrasses. Mais pour des raisons, parce que je vendais plutôt mon vin qu'une appellation. Je ne mettais pas terrasse. Mais aujourd'hui, c'est une appellation tellement...
Ah, et très tendance aussi. Hein.
Tendance que ce serait bien que mon domaine soit classé dans la zone terrasse du Larzac.
Parlons du bouchage. Est-ce que c'est important pour vous ?
Ah oui, le bouchage, c'est un vrai problème. Le problème, c'est que ça survient souvent pendant des dégustations importantes. C'est pas fréquent chez nous parce qu'on bouche avec des belles choses. Mais quand vous recevez quelqu'un avec une vieille bouteille qu'elle est bouchonnée, on a beau vous dire que c'est pas grave, ça jette quand même une ombre sur la dégustation.
Et vous travaillez comment, avec qui ?
Oh, j'avais 3 ou 4 bouchonniers différents, des belles maisons. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, je me suis laissé convaincre sur mes blancs d'abord et progressivement sur d'autres cuvées par des bouchons de diam, qui sont des bouchons en liège. Les gens croient que c'est de matière synthétique, c'est
mais
du liège.
Mais c'est du liège, quoi.
Et en plus, nous, on a le diam origine qui mélange de l'huile de ricin, fait des extraits avec de la cire d'abeille. Donc,
un bouchon bio, presque, on va dire. C'est ça.
Pour la colle.
Florence, le coup de cœur chez Alain, donc, dans sa gamme et sa production. Ça n'a pas été facile d'en trouver un parce que les vins sont quand même très bons.
Exactement, oui.
Et vous avez choisi un blanc.
Oui, la cuvée Très Lent 2015 en IGP Pays d'Oc. Le seul vin blanc sec produit sur le domaine et qui est certifié bio. Donc, le Très Lent, c'est le nom du village. D'un village de l'Aubrac, et ça, ça vous tient à cœur, hein, parce que ça correspond à une partie de votre famille, et ça veut dire très lent.
Voilà, il y a les deux idées, il y a le village de l'Aubrac, et l'idée qu'il faut prendre son temps.
Avec un assemblage unique, dont vous parliez tout à l'heure, de Valmentino et de Chenin. Donc, c'est un vin que l'on voit de loin, parce qu'il brille de mille feux. Il est doré avec des reflets or. Il est très attrayant, on a envie de se rapprocher et on fait bien parce que son nez est surprenant, il est légèrement oxydé et il émane de lui une vraie complexité avec des arômes de fruits exotiques mûrs, des agrumes, des épices, quelques fleurs. Et en bouche, il tapisse votre palais d'un gras très agréable tout en gardant une belle fraîcheur. Ce vin rond vous laissera un souvenir pendant longtemps parce qu'il a une formidable longueur en bouche. C'est un vin... À mon avis, qu'il vaut mieux carafer dans sa jeunesse. Et il a suffisamment de tenue pour faire face à une volaille, à des poissons crémés ou à des fromages de chèvre au miel. Et c'est un vin de garde.
Donc c'est le paradis, ça, ça y est. Alors, combien ça coûte pour terminer, Alain, ce vin dont parle très bien Florence ?
Presque 30 euros.
30 euros pour un grand moment de bonheur. Merci beaucoup Florence et Alain Vino, Sud Radio. Retrouve maintenant Philippe Orbach, notre meilleur sommelier du monde, qui reste dans les beaux pays avec du soleil, de la garrigue, de la montagne, direction l'île de Beauté.
Oui, l'île de Beauté avec... il y a plein d'appellations contrôlées très connues, Ajaccio, Patrimonio, etc., le Cap Corse. Mais il y a aussi 50% des vins produits en Corse sont sous la dénomination indication géographique protégée, donc île de Beauté. C'est un joli nom pour une appellation. Hein. Ça s'appelait Vin de Pays avant, de l'île de Beauté, maintenant ça s'appelle IGP. C'est depuis 82 quand même, ils revendiquent cette appellation. Et en 2009, les IGP ont été créés, donc ils ont opté pour cette option-là. Il y a essentiellement de vins rosés, hein, c'est presque la moitié en IGP qui sont produits en rosé. Il y a à peu près 20% de blanc et pour le reste en rouge. L'idée ou l'intérêt pour les viticulteurs, c'est d'avoir une liberté de travail, des rendements un peu plus conséquents et un encépagement aussi beaucoup plus large. Parce que dans les appellations contrôlées, on sait qu'il y a effectivement une concentration faite sur des cépages particuliers qui permettent de donner un goût aussi spécifique et reconnaissable. Dans les IGP, il y a une liberté plus grande. Et pas nécessairement toujours sur des cépages exotiques, parce qu'il y a d'anciens cépages autochtones, corses, qui sont utilisés dans les IGP et qui ne rentrent pas dans l'appellation contrôlée. Ce qui est quand même un peu particulier. Je pense par exemple au Bianco de Gentile, à l'Aleatico, au Carcagiolo ou d'autres cépages. Il y a une trentaine de cépages cultivés en Corse qui peuvent rentrer dans l'appellation. C'est une vraie richesse d'avoir effectivement ces vieux cépages dits oubliés. Il y en a certains qui sont un peu plus exotiques peut-être encore. On a le Carignan qu'on évoquait tout à l'heure, le Vermentino qui est un grand cépage aussi de ce coin-là. Mais le Leidoner pelu qu'on a l'habitude de trouver plutôt...
En fin de soirée, non ?
Oui, non, mais plutôt dans le sud-ouest ou dans le Languedoc, ouais. Voire le Roussillon. Le Barbarossa, le Riminez, il y en a même qui s'appelle le Paga Debiti, ça veut dire en Corse paye tes dettes.
Léger appel du pied.
Alors que le Tchacarel, qui rentre aussi, bien sûr, dans les IP,
mais est-ce que tous les Corses payent leurs dettes ?
En tout cas,
ils ont une sanction, sinon.
C'est le proverbe inversé.
En tout cas,
ne s'enrichit pas.
C'est la traduction du nom de ce cépage. C'est assez amusant quand même. Hein. Le Tchacarel, qui est un cépage qu'on a dans les appellations de gènes contrôlés, mais qu'on a aussi en IGP, qui vient de Tchacou, qui veut dire le croquant. Et effectivement, il y a une peau épaisse et tout à fait particulière.
C'est le nom à ce vin-là.
Et le Tchacarel, non, c'est le Nieluccio, qui est le Sangiovese, exactement.
Qui est croquant.
Qui peut être croquant également. Donc il y a une multitude de cépages. Certains sont un peu continentaux. C'est vrai que dans les IGP Corse, on peut trouver aussi du Pinot Noir, du Cabernet Sauvignon, du Chardonnay, du Merlot qu'on vient d'évoquer, effectivement, du Cinsault, du Grenache, du Muscat, etc. Et même de la Syrah. Donc il n'y a pas que des vieux cépages corse traditionnels, mais il y en a un certain nombre.
Quelques vignerons peut-être, Philippe ?
Oui, parmi les stars, Yves Leccia, du côté de Patrimonio, mais qui produit aussi pas mal d'IGP avec sa compagne, et notamment une cuvée de blanc associée avec du Vermentino traditionnel, mais aussi du Bianco Gentile qui revient à la mode un petit peu. Le domaine Casanova, tout comme le domaine Saint-Antoine et la cuvée Félix Pietri qui fait des muscats, non pas en vin naturel, mais en vin naturel Mondoux, une sorte de vendange tardive de muscat, tout à fait remarquable. En rosé, le domaine Terra di Diana également. Et puis d'autres vignerons, on évoquait Yves Canarelli ou d'autres grands noms.
Qui a aussi beaucoup poussé pour sauver les vieux cépages corse.
Exactement.
Finalement,
beaucoup de grands domaines ont, domaine Vico, etc., ont des vins en appellation d'origine contrôlée, AOP, AOC, mais également effectivement des IGP qui sont assez remarquables. Et ce n'est pas parce que c'est IGP.
Oui, que c'est forcément mauvais, au contraire.
Justement, ça laisse cette liberté et cette latitude.
Pour mentionner. Aussi.
Également. Merci beaucoup.
D'Ajaccio.
Merci Philippe Orbach. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine pour parler de la belle maison de champagne de Venoges.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
C'est reparti pour Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés en public chez Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine avec un nouvel invité, Gilles de la Bastière. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors, vous êtes président du champagne de Venoges. Vous êtes vendéen, mais né au pays de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans la famille ?
Eh bien, écoutez, mon père a travaillé aux États-Unis dans les années 70 et je suis né. Dans l'État de New York, près de Rochester, exactement. Donc j'ai un passeport américain.
Et un petit peu de sang écossais aussi ?
Alors, un petit peu de sang écossais, mais ça remonte au XIIIe siècle, donc c'est un peu plus lointain.
Alors Gilles, racontez-nous, donc, vous êtes diplômé de l'ISG, et ensuite vous êtes directement rentré au sein de cette maison de Venoges en 1995 à New York.
Tout à fait, parce que de Venoges avait besoin de quelqu'un pour s'occuper du marché américain, et ayant un passeport américain, je pouvais travailler... de manière autonome à New York pour la maison de Venoges.
Et alors en 2005, vous allez atteindre votre nirvana professionnel, vous devenez président de cette maison. Un mot sur l'histoire de Venoges, tout débute en 1837.
Tout à fait, 1837, Henri Marc de Venoges crée sa société avec ses fils, Joseph, Léon et Marc, les deux derniers partant dès 1842 aux États-Unis. Et Joseph restant comme étant un peu le directeur export de l'époque et développant la marque et en faisant à la fin du 19e siècle une des trois plus grosses marques puisque de Venoges vendait 1 million de bouteilles.
1 million de bouteilles.
En 1900, il n'y avait que trois marques qui vendaient plus d'1 million de bouteilles.
Lesquelles ?
Moët et Chandon, Heidsieck Monopole et de Venoges.
Oh là, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, qui sont les heureux propriétaires de cette société ?
Alors aujourd'hui, c'est le groupe Lanson BCC, donc un groupe 100% champagne. Dont le président est Bruno Paillard.
Qu'on salue d'ailleurs. Comment peut-on définir le positionnement de Venoges, votre philosophie en matière de vin ?
Alors la philosophie de Venoges, c'est de faire des vins très élégants, mais avec de la complexité, c'est-à-dire que finesse et élégance. Donc ça, c'est l'objectif, de faire des vins finalement très modernes.
Et une dominante de Chardonnay, de Pinot, est-ce que c'est lié au cépage ou pas ?
Alors, pas vraiment, puisque Richard Julin, expert en vin suédois, dit de Devenoge que c'est une marque difficile à classer au niveau des cépages, puisque on est aussi bon au niveau du Chardonnay que du Pinot Noir.
Bon, ça va, il y a pire comme compliment. Dans la gamme, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, vous avez quoi ? Vous avez du Brut sans année au cuvée de prestige ?
Alors, on a le Brut Cordon Bleu, qui est assez connu, puisqu'il y a un
Cordon Bleu. Pourquoi le Cordon Bleu ? Donc, 1851, il apparaît, ce fameux Cordon Bleu ?
Oui, ben parce qu'il y a deux explications. La première, c'est le Cordon Bleu, c'est l'Ordre du Saint-Esprit, créé par Henri III en 1578. Et qui a été repris effectivement par Henri-Marc de Venoge. Et la deuxième raison, c'est que la Venoge, c'est un fleuve qui s'écoule dans le lac Léman, et ça rappelait effectivement ce cordon bleu, ça rappelait la rivière, la Venoge.
Et alors votre cuvée haut de gamme spéciale, comment elle s'appelle ?
Alors de Venoge a une bouteille assez spéciale, qui est en forme de carafe, qui s'appelle la cuvée des princes, qui s'est appelée au départ la cuvée des princes.
Oui.
Et donc ça, c'est une gamme intermédiaire, donc en bouteille, en carafe. Et la cuvée de prestige de Venoge, c'est la cuvée Louis XV. Alors pourquoi Louis XV ? Parce que c'est Louis XV qui, le 25 mai 1728, a autorisé la mise en bouteille des vins de Champagne, ce qui a permis au Champagne d'exister, avec la première maison Ruinart en 1729, puis Chanoine en 1730.
C'est QFD. Alors, côté distribution, pour toutes ces belles bouteilles, vous les vendez en France, mais également à l'export ?
Alors, aujourd'hui, Devenoge est une marque un peu plus export, puisqu'on fait 60% de nos ventes à l'export. Et en France, on est exclusivement distribué chez les cavistes, chez Nicolas, par exemple. Là où nous sommes aujourd'hui.
Donc on ne trouve pas de Devenoge en grande distribution ?
Non, pas de Devenoge en grande distribution.
Ça, c'est un choix stratégique.
Par contre, en grande restauration, oui.
Et oui. Alors, dans votre actualité, il y a j'allais dire, la Tour Eiffel, une fois, deux fois. La Tour Eiffel, un jour, toujours, quoi.
Alors, la Tour Eiffel, on a été partenaire de l'exposition, comme d'autres marques d'ailleurs, en 1889. Et on a eu la chance de pouvoir faire la première bouteille de champagne où il est écrit Tour Eiffel dessus, puisqu'on a eu un accord avec la société d'exploitation de la Tour Eiffel.
Et là, donc, il y a d'autres cuvées qui sortent avec cette marque
Alors, on a fait une cuvée spéciale pour le 130e anniversaire, une série limitée de 15 000 bouteilles qui sont toutes vendues. Et d'ailleurs, alors, vous pouvez les trouver encore chez Nicolas. Il en reste quelques-unes chez Nicolas.
D'accord.
Et on va continuer cette cuvée dès l'année prochaine avec une cuvée Tour Eiffel classique.
Et votre maison de champagne et puis l'avenue de Champagne à Épernay, c'est aussi une belle histoire d'amour.
Alors effectivement, Devenoge est sur l'avenue de Champagne depuis 1899, puisqu'on avait racheté en 1899 le 30 avenue de Champagne au Champagne Piperetzig, qui était à l'époque une maison sparnassienne. Et on a racheté en 2015 une très belle maison qui s'appelle l'Hôtel Galice.
Et on peut la visiter ou pas ?
On peut la visiter et on peut même y dormir, puisque depuis 2015, on a fait 4 chambres et un appartement magnifique.
Bon, pas loupé là, pour les auditeurs de Invino sur Radio, voilà, qui passent dans cette belle région. Reims, c'est parfait, mais Épernay, c'est très bien aussi. Et enfin, pour terminer, vous savez, Sud Radio, c'est aussi la radio du rugby. Hein. Vous avez joué au rugby ?
Oui.
Vous aimez le rugby ?
J'aime beaucoup le rugby. J'ai joué au rugby à Maison Lafitte. Et puis j'ai joué aussi aux États-Unis, en première division aux États-Unis, au club des Red Lions.
Et le niveau est bien là-bas ?
Le niveau était très bien, puisqu'il n'y avait que 2 Américains dans l'équipe, puisque le propriétaire est un propriétaire de bar irlandais qui avait 3 bars à New York.
Ah oui.
Et qui faisait venir des Irlandais, des Néo-Zélandais, des Fidjiens qui avaient joué à très haut niveau. Et donc, on avait une très
belle équipe. Vous jouez quel poste ?
Moi, je jouais 3 carrels.
3 carrels, quoi. Voilà. Celui qui est un peu loin des gros, moi, qui court vite, mais voilà, il peut le rattraper.
Mais pas le dernier pour dans les bagarres.
Bien sûr. Et pour terminer, on sera champion du monde ou pas, alors, en 2023 ?
Je pense que ça sera difficile, mais on ne sait jamais.
Merci beaucoup, Gilles, et bon vent pour cette belle maison, le Champagne de Venoge. Gilles Vino, Sud Radio, retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et des spiritueux, pour nous parler des voyages d'un certain Thomas Jefferson, qui a été président des États-Unis il y a bien longtemps. Non, il a exercé quoi, en 1801 de mémoire ? Pense que le mandat, c'était 1801-1809. Alors, mais
1809, il était le troisième président. Je ne me souviens pas du deuxième. Le premier, évidemment, était George Washington.
Adams.
Qui était Adams, oui. Donc, il était ami avec les deux. Ce président-là n'avait pas de compte Twitter, c'est important. Et puis je pense qu'il lisait beaucoup plus.
Il avait des cheveux comment, David ?
Je ne sais pas comment étaient les cheveux,
gris.
Je pense qu'il portait une perruque à l'époque. Peut-être comme l'actuel. On ne sait pas. Je ne suis pas dans les secrets de ce genre de choses et ça m'intéresse.
Alors, est-ce
peu.
Qu'il aimait le vin et la France,
alors, ce monsieur s'intéressait à tout à la Marty. Il s'intéressait. Alors, c'est un homme de son époque. C'est un homme plein de paradoxes, comme beaucoup. Un penseur, un type curieux de tout, qui aimait l'architecture, qui aimait l'art, qui aimait l'agriculture énormément, qui avait des esclaves aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il vivait dans la Virginie, son domaine qui est maintenant un héritage national aux États-Unis qui s'appelle Monticello. Il a d'ailleurs implanté de la vigne qu'il a ramenée d'Europe et il était étonné de voir que cette vigne crevait sans le savoir. Il avait découvert le phylloxera.
Oui.
Parce qu'en fait, c'était des vitis vinifera, ce n'était pas des vitis nord-américaines, Berlandi ou rupestris, et donc ces vignes ne survivaient pas sur cette terre. Mais ce dont je voulais vous parler, ce sont ces voyages dans le vignoble de la France, un peu de l'Allemagne, ça j'en parlerai une autre fois, et du nord de l'Italie, ce qui est actuellement l'Italie, parce qu'il a fait deux parcours. Donc le premier durait trois mois et demi, donc je ne sais pas s'il a fait beaucoup son travail d'ambassadeur, mais il a fait énormément de travail sur le terrain. Et sur le terrain, il est allé franco, c'est-à-dire qu'il voyageait à cheval, en carriole tout seul, il n'était pas avec une garde républicaine, et il couchait un peu n'importe où. Hein. Il aimait bien vivre à la dure et voir comment les gens vivaient. Alors je vais vous lire quelques extraits, parce que ce voyage qui avait lieu au printemps, à partir du mois de février jusqu'au mois de mai en 1787, donc deux ans avant la Révolution, on appelle ça son périple méridional. Il est parti par l'Est et on va visiter avec lui Bourgogne, Beaujolais et Côte-du-Rhône-Nord. Et on va trouver des descriptions qui sont assez précises et qui vont nous évoquer la situation aujourd'hui. Parce qu'il va décrire les paysages, la végétation, les gens, les modes de vie, leur salaire, ce qu'ils mangeaient, comment ils se vêtissaient. Il étonne parfois dans certaines régions de dire qu'ils trouvent que les femmes travaillent trop durement, qu'elles font tous les travaux dehors et c'est pas normal, c'est pas bien. Bon, il est un peu macho, si on veut. Mais
quand on est esclave...
Voilà. Oui, mais c'est ça, il faut être cohérent.
Attention.
Alors, voilà, première citation, il arrive en Bourgogne, à Pommard et à Volnay. J'ai remarqué que les ouvriers mangeaient du bon pain de Froment. À Marceau, en revanche, du pain de seigle, beaucoup moins bien que le pain de Froment. J'ai demandé la raison de cette différence et on m'a dit que les vins blancs, n'ayant pas une qualité comparable à celle du rouge, restent invendus. Par conséquent, le vigneron ne peut pas nourrir ses ouvriers aussi bien. Meursault ne produit que du blanc qui a trop de cailloux pour le rouge. La condition du travailleur dépend de si peu de choses. Je trouve cette remarque vraiment intéressante. Alors, ces analyses des crus, du rendement et de la qualité et des prix des vins sont aussi très intéressantes. Je le cite de nouveau. Les vignobles qui ont conféré sa réputation à la Bourgogne se trouvent uniquement sur la côte. Donc on est sur la côte d'Or et ne couvrent qu'une zone de quelques 30 km de long sur 3 de large. Il commence à Chambertin et englobe Vougeot. Alors je vous rappelle qu'on n'avait pas encore les noms à trait d'union parce que le politique de marketing d'attacher le nom du vignoble ou le nom du village, c'est la fin du 19e siècle. Et englobe Vougeot, Vaune, Nuit, Bonne, Pommard, Volnay et Meursault pour se terminer à Montrachet. Les deux derniers sont blancs et les autres sont rouges. Les Chambertin, Vougeot et Beaune sont les plus robustes. Ils supportent le transport et la conservation. Ça, c'était effectivement un critère de choix pour les grands vins. Les grands vins, c'était des vins qui se gardaient et des vins qui se transportaient bien. En conséquence, ils se vendent sur place 1200 livres la queue. J'ai fait une conversion approximative et cela signifie que le Montrachet de cette époque valait déjà environ 25 euros la bouteille.
Ce qui est énorme, David.
Ce qui est pour l'époque, c'était beaucoup parce que vous allez voir par la suite que ça descend très vite derrière. Le Volnay est le meilleur des autres vins rouges et son bouquet est égal à celui du Chambertin. Mais étant plus léger, il ne se conservera pas et donc ne se vendra pas plus de 300 livres la queue, soit 12 sous la bouteille, ce qui vaut 6,25 euros. Alors, si le Montrachet vaut 25 euros la bouteille, quid des autres blancs de l'appellation toute proche, qui est Meursault ? Là, je le cite de nouveau. Le Meursault de la meilleure qualité, tel la goutte d'or, c'est un premier cru aujourd'hui, vaut seulement 150 euros la queue,
ah oui,
soit 6 sous la bouteille. Ça fait 3,10 euros. Il est étonnant que les meilleurs crus de chaque type, blanc et rouge, proviennent de chaque extrémité de la zone, ainsi de suite. Je poursuivrai le voyage une autre fois.
Merci beaucoup, David Cobold. Merci également donc à vous, Florence Corbalan, Philippe Forbrac et Gilles de la Bastière. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro. d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou sur votre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous parlerons fêtes de fin d'année, nous retournerons au ski avec les bronzés, une cuvée spéciale. Nous irons à Pomerol pour suivre notre voyage avec Thomas Jefferson et on parlera de l'excellent magazine Rouge et Blanc qui existe depuis 1983. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.